Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
h 32, on est de retour et c'est le moment du début de la dernière chronique en lien avec le panel du panel qui était investir en faveur des femmes, accélérer le rythme que moi et Enzo on a passé plusieurs entrevues et je laisse la parole à mon cher Enzo qui va vous parler de la discussion avec le président de l'association des Burkinabés de Sherbrooke.
Effectivement, mais je vais introduire la discussion, puis tu pourras rajouter à ta guise à cette chronique. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir discuter avec le président de l'association des Burkinabés de Sherbrooke, qui nous a parlé de la question de la santé et en parallèle avec la question des violences faites aux femmes. Donc en fait c'était passionnant, nous on est arrivé à cet événement, puis on a directement rencontré ce monsieur, on s'est entretenu avec lui, et il nous a offert un témoignage sur... sa perspective intellectuelle qu'il avait, qui est une perspective intersectionnelle sur la question des femmes et de l'immigration. En fait il nous a expliqué que... au Burkinabé, et c'est la petite partie chiffres et histoire, il nous a expliqué de la question de terrible et horrible que touche une grande partie des femmes burkinabées en ce moment, qui est la question de l'excision. Donc l'excision, en fait, il faut savoir que c'est une mutilation physique, une mutilation génitale qui est faite sur le corps sur les parties génitales des femmes burkinabées. Et ces mutilations sont menées par des groupes, des spirituels, des politiques intégristes, extrémistes, islamistes, qui donc mutilent les parties génitales des femmes, leur enlèvent un morceau, sans rentrer dans les détails de ces pratiques horribles. Au Burkina Faso, c'est avec la montée du djihadisme et avec la montée des affrontements et des déplacements de populations et de la violence et la croissance du djihadisme dans cette région-là, le taux d'excision est devenu un chiffre important. Malheureusement, cette horrible chose est devenue quelque chose de conséquente au Burkina, malgré une légère baisse, car, et je vais aussi placer ça, car depuis quelques années, y a une énorme mobilisation des jeunes filles et des jeunes garçons, et ça s'avère être un élément crucial, car ça a permis de baisser le taux d'excision dans un pays qui était le pays le plus touché par ce fléau. Comme je le disais, la violence des groupes djihadistes et ses conséquences ont menacé en général la population et ont encore plus menacé les femmes. Il est l'un des 29 pays les plus touchés au monde par l'excision selon l'UNICEF. Mais comme je le disais, il y a quelques progrès depuis 10 ans grâce aux mobilisations des organisations de jeunesse qui luttent contre cela. En 2010, c'était 76% des jeunes filles et femmes de 15 à 49 ans qui en étaient victimes. 11 ans plus tard, en 2021, elles n'étaient plus que 56, ce qui reste un chiffre horriblement énorme. Mais c'est une baisse qui, dans une moindre mesure, concerne aussi le cas d'excision chez les jeunes enfants, car c'est des violences qui sont aussi menées sur les enfants de 0 à 14 ans, qui est passé de 13% en 2010 à 9% en 2011. Il y a Bilal Sougou, le chef du programme de protection de l'enfant à l'UNICEF Burkina, qui a salué ces importants progrès, je le cite, liés à un grand engagement politique des autorités. À ce jour, on a eu presque 400 cas seulement d'excision, ce qui reste énorme, ou de gens qui ont pratiqué l'excision et ont été traduits devant les tribunaux. Donc aussi, grâce à cette mobilisation, il y a plus de personnes qui commettent ces actes, ou de groupes religieux qui font la promotion ou qui commettent ces actes, qui sont traduits devant la justice. Voilà, note de son côté, je le cite aussi, Rukiatou Sedgo, coordinatrice du projet Vivre avec l'excision, qui qui répertorie les femmes excisées. Elle cite, je la cite, on a toujours des difficultés dans la région, dans les régions du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest, parmi les plus touchées par les violences djihadistes. Donc, malgré une légère baisse dans l'ensemble du pays, il y a une hausse de ces crimes-là, moi j'appelle ça des crimes, dans ces régions-là, car c'est des régions qui sont les plus touchées par le djihadisme et par les groupes intégristes religieux et les violences de ces groupes-là dans ces régions-là. Voilà, j'ai planté le décor de cette horrible pratique pour un petit peu avoir un contexte, expliquer ce qu'il y avait, ce qui se passe dans cette région du Burkina Faso. Malheureusement, région du Burkina Faso qui a aussi connu des grands moments de progressisme, des grandes luttes avec de grands progrès. Moi, en tant que militant marxiste, je peux que parler de Thomas Sankara, qui était un militant internationaliste, panafricaniste et un grand militant féministe et environnementaliste, déjà à l'époque, bien avant tout le monde, qui parlait de la condition des femmes, qui se battait notamment contre les groupes intégristes par rapport à ce qui se passait dans certaines traditions au Burkina Faso, qui avait une vraie parole concernant la question de la femme. Donc c'est un pays qui a aussi connu des moments très progressistes grâce à cet homme-là, Thomas Sankara, qui est un homme pour lequel j'ai un très grand estime politique. Et malheureusement, voilà, avec cette montée-là, cette question-là est revenue à l'ordre du jour depuis des quelques décennies. Le président de l'association des Burkinabés de Sherbrooke, en fait, la perspective qu'il avait, c'est qu'il expliquait qu'est-ce qui se passait lorsque, à cause de ces mutilations-là, il parlait aussi d'excision, mais d'autres choses aussi. Il parlait, enfin, et ça, on l'a entendu pas que par lui, mais dans les conférences en général, il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences aussi, familiales, intrafamiliales, dans le couple. Et la justice traite très peu ces choses-là. Et c'est un vrai tabou, là-bas, encore une fois, dans les populations très religieuse au Burkina Faso, ce qui fait que beaucoup de femmes viennent quittent le pays car elles n'ont pas le choix de quitter ce pays-là pour leur survie, pour leur vie, la vie de leurs enfants, leur bien-être, et vont venir notamment au Canada. Et parce que là, en l'occurrence, on parlait des femmes burkinabées qui venaient vivre au Canada. Et en fait, la perspective du président de l'association des Burkinabés de Sherbrooke, c'était d'analyser qu'est-ce qui se passe quand ces femmes-là viennent au Canada pour leur survie, parce qu'elles n'ont pas le choix pour survivre et pour la survie de leurs enfants. Encore une fois, je mets ce point-là vraiment l'importance, parce que certaines personnes ne comprennent pas des fois ce qu'est l'immigration et pensent que c'est des chiffres sur un tableau qu'on peut bouger comme on veut, mais je tiens à rappeler que c'est la survie de ces femmes-là qui sont en jeu là. Donc on n'a pas le choix d'accepter ces personnes-là au Canada. Et lui, la perspective de cet homme-là, c'était qu'est-ce qui se passe quand ces femmes-là arrivent sur notre territoire par rapport au système de santé canadien. Car il est vrai que le système de santé canadien, au Canada, on ne connaît pas. Et grand heureusement, on ne connaît pas cette question-là de l'excision. Et donc, les chirurgiens, les infirmiers, les médecins, les ne sont pas formés nécessairement à la réparation génitale de ces femmes-là.
Qu'on appelle généralement la médecine réparatrice, là, qui englobe toute cette réparation qui, ouais, tu sais, ça vise vraiment comme tout ce qui vise à réparer, générer en totalité, en partie les tissus ou organiser pour vraiment, ça a souvent une connotation esthétique aussi.
Ouais, merci Jérémy. Effectivement, on est peu formé sur la question de la médecine réparatrice pour les questions de mutilation génitale. Et aussi, il parlait aussi notamment des psychologues. Nos psychologues ne sont pas nécessairement formés parce que ces femmes-là sont abîmées. C'est comme le disait la porte-parole de l'association des femmes Burkina, c'est une partie de nos corps qui nous est enlevée, quoi. Donc c'est physique, mais aussi psychologique. C'est une énorme atteinte pour ces femmes-là. Et donc le corps psychologue, des personnes qui travaillent en psychologie au Canada ne sont pas nécessairement formées notamment à ces questions-là, à comment aider psychologiquement ces femmes-là, comment les accompagner. On n'est pas formé à soigner ces questions-là. Donc il expliquait, lui, à travers son organisation, puis là, je laisserai un petit peu Jérémy aussi compléter, il était là avec moi. Lui, il nous expliquait comment, avec son association, il comptait justement remédier à ça, apprendre justement notamment à des nouvelles pratiques, développer notamment peut-être de l'éducation populaire liée à la médecine. Et aussi, Il voulait s'entretenir avec les politiques, mais au départ, être quelque chose de plus associatif et organisationnel que politique. C'est ça ce qu'il nous avait dit.
Oui, exact, exact. T'sais, dans l'idée, c'était vraiment... lui, ce genre d'événement-là qu'il avait organisé, donc ce panel-là qui était en commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, son objectif premier, c'était de sensibiliser et de faire des événements interculturels. Donc, simplement, comme rassembler les gens et de leur... pas nécessairement de leur faire connaître. Tu sais, c'est pas
un cours. Des solutions. C'est ça. Trouver des solutions à ces problématiques-là.
C'est pas un cours là, qu'on nous a donné au final. Non. C'est vraiment, on ouvre des pages, on ouvre des fenêtres et on regarde un petit peu, puis on voit un petit peu ce que c'est, certaines conditions ou certains événements qui se sont passés. C'est vraiment ça que lui, il voulait faire. C'était vraiment ouvrir les yeux un peu à tout le monde que... ben il y a beaucoup de gens puis tu sais on retombe tout le temps dans l'intersectionnalité à la fin de la journée. Il y a beaucoup de gens avec des backgrounds toutes plus uniques que l'un que les autres qui en font des personnes encore plus uniques et ben il faut les voir et puis c'est ça, il faut les voir ces gens-là, il faut les considérer, il faut leur parler et ça l'inclut tout le monde, c'est ça à la fin de la journée. Donc il faut que les gens se rassemblent puis les gens différents se rassemblent pour qu'on puisse justement en parler puis qu'on puisse discuter de solutions. Puis lui, c'était vraiment ça là, qu'il nous avait dit que c'était au cœur de son cheminement au sein de l'association des Burkinabés de l'Estrie. Je pense que c'est de l'Estrie en passant.
J'ai dit Sherbrooke, mais c'est de l'Estrie.
Ben, moi aussi, j'ai dit Sherbrooke, je pense que c'est de l'Estrie.
Mais donc oui, ça c'est... Plutôt que de vouloir se... Tu sais, il croyait plus vraiment au truc de se... Tu sais, se... être directement en lien avec des politiques ou se présenter ou quoi. Ouais, lui, c'était vraiment... bah... réveiller les consciences et aussi aller voir directement les professionnels de... C'est ce qu'il nous disait. Il nous disait aller voir pour le coup des plannings familiales ou directement des professionnels de recherche ou de la santé ou de la médecine, discuter avec des organisations féministes ou intersectionnelles. Et c'était intéressant. Ouais, et donc, lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était comment on peut faire en sorte que ces femmes-là qui ont subi le pire dans leur pays, une fois qu'elles arrivent à sortir de ça, à arriver dans un pays où elles ne vont pas subir cette violence-là, à comment les aider à se réparer psychologiquement, physiquement, avec des moyens qu'on n'a pas nécessairement ici, mais comment les apporter ici et comment pouvoir venir en aide à ces femmes-là qui ont des problèmes que les femmes au Canada ne vivent pas. Et en fait, on vit d'autres problèmes, nous, ici. Et donc, voilà, c'était ça qui était vraiment intéressant. Comment apporter à la médecine... Aussi, il avait comment aider ces femmes-là, même, on n'a pas encore les moyens de les aider, mais comment apporter les moyens d'aider ces femmes-là, ici, quand elles arrivent au Canada. Il avait aussi une autre perspective sur la santé. Il nous a beaucoup parlé du système de santé. Lui, il était alarmé par rapport à ça, par rapport au système de santé au Québec. Il était choqué. Je vais essayer de... On a la chronique de Marc-Antoine juste après, je vais essayer de bientôt finir. Il était vraiment choqué par la question du système de santé au Québec, l'attente qu'il y avait aux urgences et la non prise en compte des fois de certains patients. Et il nous avait notamment dit que ce qui l'avait choqué, c'est les incroyables conditions matérielles qu'on avait ici en santé par rapport à chez eux au Burkina. Et en gros, il nous expliquait qu'ici, on avait des très bonnes conditions matérielles dans la santé, mais qu'on avait beaucoup moins qu'on prenait beaucoup moins en compte nos patients et qu'il y avait beaucoup plus de temps d'attente et que les gens étaient beaucoup moins pris en compte et que c'était un peu moins bien fait peut-être par rapport aux patients, alors que là-bas à l'inverse ils avaient beaucoup moins de conditions matérielles et de capacités pour la médecine, mais par contre que on soignait les gens à la seconde, enfin très très rapidement, qu'il y avait beaucoup plus de personnel, qu'on prenait beaucoup plus soin des personnes. Donc c'était intéressant aussi, il nous parlait de rapport entre économie et culture, prise en charge des patients, conditions matérielles. C'était intéressant d'avoir le regard aussi de cet homme-là qui mettait en perspective la médecine au Burkina et au Québec. Toutes les deux avaient des problématiques, mais qu'elles étaient en réalité différentes.
Oui, c'est ça. Puis il disait que son expérience avec les hôpitaux, c'était son fils qui jouait, je sais plus, c'était au soccer ou au hockey. Ouais. Il s'était cassé une jambe. Puis lui, c'était ça, sa première expérience d'hôpital. C'était amener son fils à l'urgence. Parce que c'était cassé une jambe. Il a dit qu'il avait passé 24 heures là en attente, puis lui c'était ça sa première expérience.
Ouais,
fait que oui, je comprends que c'est choquant.
Il nous expliquait que au Burkina ils auraient peut-être pas les meilleures choses, enfin les meilleurs moyens qu'on a ici pour soigner son fils qui se serait cassé une jambe, mais ils auraient utilisé ce qu'ils avaient, les moyens du bord, mais ils l'auraient soigné directement, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est ça qui était intéressant de voir ces deux perspectives-là. Donc voilà, je pourrais en parler plus longtemps encore, mais.
C'est ça. Mais voilà. Mais tout, dans tout, au final, son message était vraiment. Oui, il voulait forcer les. Ben, pas forcer les politiques. Tu sais, c'est pour ça que notamment Christine Labrie était là et Luz Fernanda, conseillère municipale. Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke à l'Assemblée nationale. Il voulait qu'il soit là pour qu'il entende, mais lui, son but, c'était vraiment de faire des discussions, puis que les gens se rassemblent, puis que les gens parlent, puis qu'il y a une diversité.
Et de faire bouger les choses, au-delà du politique aussi.
Oui, c'est ça, de cette façon-là. C'était vraiment par l'entremise des discussions. Donc sur ce, je vous envoie en pause publicitaire, et on se revoit directement après. Oui, merci pour ta chronique, Enzo, en passant. Et on se revoit après pour le dévoilement de la programmation de la fête du Lac des Nations que vous étiez supposé avoir la semaine passée, mais ça a l'air que les grèves touchent la radio. Fait qu'on n'a pas pu faire de radio la semaine passée. Fait que je vous envoie un post publicitaire.